Bonsoir, comment allez-vous? J'aime les animaux, j'en ai. Nous nous aidons, nous nous parlons, nous nous aimons. Je me réjouis que des personnalités comme Franz-Olivier Gisbert ou Mathieu Ricard écrivent des livres intelligents pour les défendre. Parallèlement à ça, il y a des gens qui, tout en aimant aussi les animaux, œuvrent pour qu'on les déteste. Le maître qui hurle dans le vide « Pas sauter, pas sauter !» pendant que son jeune boxeur vous laboure les habits. À table, s'il arrête de bondir, c'est pour venir baver sur vos genoux. Là, le maître ne hurle plus. Il s'est calmé. Il vous demande juste de lui donner un petit morceau de foie gras, au motif qu'il adore ça. C'est le même gars dont le chat saute sur la table en sortant de sa caisse, marche autour des assiettes avec sa démarche féline, lâche quelques grains. Et là, le maître vous dit « Oh, le pauvre, regarde-le, il va pas bien du tout, il a les yeux pleins de pus, mais si, regarde, c'est tout collé. Oh, c'est trop mignon, il t'aime, il s'est couché sur ton écharpe. » Charming. Il y a quand même des jours où on a envie de sortir son bulletin d'allergie au poil de tout.
Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 6 ans, et j'aimerais savoir comment les chiens, quand ils lapent, ils attrapent de l'eau. Merci, au revoir.
Bonsoir Lise, comment ils attrapent de l'eau, Joël Dehas, vétérinaire?
Eh bien, quand les chiens lappent, quand ils lèchent l'eau, ils mettent leur langue est très longue, et la langue vient plonger dans l'eau et elle se recroqueville vers le bas. Et donc, il y a toute une partie d'eau qui vient sur la surface de la langue, et il y a une petite partie qui vient parce que la...
Qui fait une cuillère,
comme
en fait.
Une cuillère, ouais. Voilà. La langue se recroqueville, elle forme comme une petite cuillère, et un petit peu, une petite quantité d'eau qui reste à cet endroit-là, et puis le chien réingère le tout. Et ça va vite, hein. Il peut laper à plusieurs dizaines de coups de langue par minute, et donc il récupère de l'eau de cette façon-là. Il ne va pas boire comme nous, il ne va pas aspirer l'eau dans la bouche, il va vraiment la lécher. Et le chat fait comme le chien, il fait également une petite cuillère, mais comme le chat, il a des petites dents sur la langue, il y a plus de quantité d'eau qui reste sur sa langue. La langue est râpeuse, elle garde beaucoup plus de quantité d'eau.
Joël Dehas, vétérinaire, a écrit tout sur la psychologie du chat et puis un autre livre également sur la psychologie du chien. Ils sont édités chez Odile Jacob. Dans Les Petits Bateaux, vous le savez probablement, des enfants posent des questions et des spécialistes répondent. Julia a demandé comment on faisait pour avoir de la place dans les cimetières. Mais tout de suite...
Oh, tout de suite, je ne sais pas.
Bonjour, je m'appelle Guillaumette, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi on baille quand on est fatigué. Merci, au revoir.
Oui, bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 9 ans, et je voudrais savoir pourquoi est-ce que l'on baille quand on est fatigué. Merci pour la réponse, au revoir.
Merci pour vos questions Aude et Guillemette. Question proposée à un spécialiste du bâillement, le docteur Olivier Waluzinski. Vous avez travaillé sur le bâillement et j'aimerais d'abord savoir si elles ont raison. Est-ce que c'est quand on est fatigué qu'on baille?
C'est un des moments, effectivement, il n'y a pas que celui-là. Si on veut un petit peu généraliser la chose, le bâillement est commun à tous les vertébrés et on peut retrouver 3 types de bâillement.
Ouais.
Le plus commun à tous ces vertébrés, donc associé au rythme veille-sommeil, on bâille quand on se réveille et qu'on sort du sommeil. On bâille quand on est fatigué pour lutter contre le sommeil avant de s'endormir. On bâille quand on a faim ou quand on a trop mangé. Ça, c'est commun à tous les vertébrés. Et puis ensuite, on a un bâillement qui est lié au système émotionnel, qui s'appelle le système limbique, qui est donc le bâillement qu'on retrouve, par exemple, chez les chiens quand ils sont dans la salle d'attente du vétérinaire et qu'ils bâillent de façon répétée parce qu'ils sont en état de stress. Quand vous avez dans un zoo un certain nombre d'animaux qui sont dans des conditions trop serrées dans une cage, par exemple, qui ne sont pas à l'aise, pour éviter de se taper les uns sur les autres, d'entrer en conflit, ils bâillent pour se détendre. Et vous avez des sportifs en particulier, il y a un coureur américain de patinage de vitesse qui, aux Jeux de Vancouver, bâillait avant chaque course de patinage de vitesse. Et les journalistes américains, à l'époque, ont dit beaucoup de bêtises, comme ça oxygène le cerveau, ce qui est faux. Et en fait, c'est simplement une façon de se décontracter, de retrouver une relaxation. Et si vous interrogez des hommes de spectacle, avant d'entrer en scène, il y en a qui bâillent pour s'apaiser. C'est le fait d'avoir un stress qui fait que pour contrebalancer ce stress, le bâillement apparaît pour rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire l'harmonie du milieu intérieur.
D'accord.
Et puis vous avez un troisième type de bâillement qui est lié à notre cortex, la partie la plus élaborée du cerveau, que nous on retrouve que chez les grands singes et l'homme, et dans certaines circonstances, peut-être chez d'autres animaux comme les rats et le chien, qui est la contagion du bâillement. La contagion est un très vilain terme, puisqu'on ne transmet aucun virus microbe. Ça s'appelle une réplication en termes d'éthologie. Et mon maître virtuel, le professeur Jean-Martin Charcot, à la Salpêtrière, à la fin du 19e siècle, avait inventé le meilleur mot qui soit, c'est une échokinésie, c'est un mouvement en écho.
Ah, c'est assez joli en plus.
C'est joli.
Et puis ça correspond bien, parce que c'est vrai qu'un fait bâiller l'autre, qui fait bâiller l'autre.
Avec une certaine latence, c'est pas instantané, donc c'est comme l'écho.
Quand je vous entends parler, docteur Olivier Waluzinski, finalement le bâillement c'est pas un petit truc comme ça, un peu rigolo, c'est complexe, c'est utile.
C'est très complexe, c'est sûrement utile, et moi j'en vois l'utilité d'une autre façon, c'est que nous avons à l'échographie des femmes enceintes de multiples bâillements de fœtus, et c'est entre la 23e et la 26e semaine de la grossesse que nous bâillons le plus au cours de notre vie. C'est-à-dire que nous bâillons plusieurs fois par heure, 24 heures sur 24. Ça peut représenter 50 ou 60 bâillements par 24 heures pour un petit fœtus. Et d'autre part, comme le fœtus bâille dès le début de la grossesse, c'est-à-dire vers 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire quand il pèse 60 à 80 grammes, se dire qu'un petit être si petit bâille si souvent, ce qui représente une consommation d'énergie considérable au point de vue activité musculaire, c'est que ça doit avoir une fonction dans la maturation du système nerveux qui est très importante.
Le bâillement du fœtus, ça correspond auquel des trois bâillements que vous avez énoncés au début ?
Le bâillement du fœtus correspond au cerveau le plus ancien, le plus archaïque, puisqu'en fait, un comportement est d'autant plus précoce dans la vie fœtale qu'il est le plus répandu parce qu'il est le plus ancien dans la phylogénèse, c'est-à-dire dans l'évolution des espèces.
Merci, docteur Olivier Waluzinski. Quand même, un fœtus qui a 60-80 grammes, c'est moins lourd qu'une petite tablette de chocolat. Et ça bâille déjà, j'en reviens pas. C'était Jamie Woon, Lady Luck. Je ne sais pas à vous, mais moi, depuis que nous avons parlé bâillement avec le docteur Olivier Waluzinski, je n'arrête pas de bâiller. Et c'est vrai que le bâillement fait travailler le corps.
Les petits bateaux sur France Inter.
Il y en a des trucs répugnants dans la vie, mais je crois quand même que dans le top niveau du dégueu, il y a l'éponge au fond de l'évier, grasse et mouillée.
Je m'appelle Esther, j'ai 6 ans. Et puis, j'aimerais bien savoir pourquoi le papier boit l'eau. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi une éponge mouillée ne coule pas. Merci, au revoir.
Mais dites donc, graines de scientifiques, Esther et Axel, bonne observation, le papier boit l'eau et l'éponge mouillée ne coule pas. Vous êtes justement professeur de physique à l'Université de Lille, Patrick Cordier. D'abord, ont-ils raison ?
Oui, alors je suppose que quand il dit que l'éponge mouillée ne coule pas, je suppose que c'est l'eau qui ne coule pas de l'éponge, hein, et que c'est pas si on la pose et qu'elle coule au fond. Auquel cas, c'est la même question que la question d'Esther, pour savoir comment ça va interagir avec l'eau. Alors il faut savoir que l'eau, quand elle ne touche rien, quand elle interagit avec rien, elle forme des gouttes. Bon, c'est les gouttes de pluie, par exemple, qui sont sphériques. Alors, ce qui va se passer, c'est de regarder ce qui se passe quand ça interagit avec une surface. Par exemple, on va poser une goutte d'eau à la surface d'une plaque de verre,
oui.
Et on voit que l'eau s'écoule et l'eau s'étale et elle va former un film à la surface du verre. C'est-à-dire que les interactions sont favorables et que l'eau va chercher à augmenter son contact avec le verre. Alors on peut essayer de pousser le jeu un petit peu plus loin et de mettre la plaque de verre verticale maintenant. Et on se rend compte que l'eau aime tellement le verre qu'elle va grimper contre son poids le long de la plaque de verre.
Si je mets une goutte d'eau sur une plaque de verre à l'horizontale et que je dresse ma plaque debout, la goutte, elle va monter ?
Ah, pas toute la goutte. La goutte ne va pas complètement monter. Mais si on regarde un verre d'eau, si on se rapproche, qu'on regarde sur le bord, juste contre le bord du verre, eh bien, il y a une petite partie, ce qu'on appelle un ménisque, une petite partie de l'eau qui remonte. Alors évidemment, ça ne peut pas monter bien haut parce qu'il y a le poids de l'eau qui va l'attirer.
Bien sûr, mais ça monte.
Mais on peut l'aider. On peut l'aider, on peut prendre deux petites plaques de verre, les rapprocher l'une de l'autre en formant un coin, et plus on les rapproche, plus on verra l'eau monter. On peut faire autre chose, on peut mettre des petits tubes de verre. Et ça, c'est un médecin qui a fait ça au XVIIIe siècle, qui s'appelle Jurin, qui a mis des tubes, des petits tubes de verre de tailles différentes, et plus le tube est fin, plus elle va essayer de grimper, parce que moins c'est lourd à ce moment-là, quoi. Et là, on a la clé du problème, maintenant, on peut répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est avoir un solide qui soit poreux, avec une porosité ouverte, bien sûr, pour que l'eau puisse se faufiler, s'infiltrer. Et donc, c'est le papier buvard, qui est simplement un papier un petit peu plus poreux que les autres. C'est l'éponge dans laquelle il y a tous ces petits trous et puis tous ces petits tunnels, en fait, dans lesquels l'eau peut naviguer. Ou c'est le sucre qu'on va mettre dans le café, qui est tout simplement les petits interstices entre les grains de sucre dans lesquels ça va monter. Ou moins drôle, l'eau qui s'infiltre dans les murs.
Oui, comme vous dites, c'est moins drôle. Donc l'eau, en fait, elle se faufile et elle grimpe.
Elle cherche à recouvrir les surfaces avec lesquelles elle a une interaction favorable. Et pour ça, s'il faut grimper et si elle n'est pas trop lourde, donc si les films sont minces, elle le fait.
La goutte d'eau qui grimpe sur le verre, c'est juste incroyable. Patrick Cordier est professeur à l'Université de Lille.
Bonsoir, j'ai 18 ans, je m'appelle Juliette et je souhaitais savoir qui a composé l'International. Et en quelle langue avait-elle été écrite ? Je vous remercie. Au revoir.
Bonsoir Juliette. Nous avons proposé ta question à un chercheur en sciences sociales au CNRS, Christian Marcadet.
Alors l'International, c'est sans conteste le plus célèbre des chants révolutionnaires. C'est un chant dont les paroles furent écrites en français en 1871 par le poète et goguetier. Le goguetier, c'est un membre d'une société chantante ouvrière et il se nomme Eugène Potier. Et ce serait longtemps resté un poème méconnu s'il n'avait pas été mis en musique quelques années plus tard, en 1888, donc c'est quand même 17 ans plus tard, par Pierre de Guetter. Nous avons là donc un exemple parfait de chanson écrite à plusieurs mains, puisqu'il y a à l'origine un auteur et ensuite un compositeur qui place une musique sur le poème initial.
Alors voilà pour répondre à Juliette qui l'a composé et en quelle langue. Maintenant, quel était le cadre de la naissance de ce chant ?
Bien, en juin 71, Eugène Potier est traqué et caché dans Paris. La répression fait rage après la défaite de la Commune de Paris. Il attend la mort au milieu de ses autres compagnons et il écrit un poème en l'honneur des milliers de morts de la semaine sanglante qui a eu lieu donc au moment de la répression. Mais il veut en même temps célébrer l'Internationale ouvrière, d'où le titre, qui a selon lui ouvert la voie à l'humanité. Et il dédie ce texte à un instituteur républicain et anarchiste. Alors au départ, on croit savoir, mais c'est pas certain, que la chanson était faite pour être chantée sur l'air de la Marseillaise, qui n'est pas encore l'hymne de la République française, mais qui est bien connue dans les milieux ouvriers et socialistes. L'œuvre va être publiée quelques années plus tard, donc grâce à Gustave Nadeau, qui précisera dans sa préface, c'est un poète mais plutôt bourgeois, qui dira « La politique nous sépare et la chanson nous réunit ». C'est quand même un joli mot. Et donc le texte est présenté alors à un musicien proche des milieux socialistes, donc Pierre de Guetter, lui-même ouvrier lillois, afin de le mettre en musique. Alors le texte est légèrement modifié et il se propage immédiatement dans le mouvement ouvrier. Dans les congrès, il est chanté, si bien qu'au moment de la la deuxième internationale en 1904 au congrès d'Amsterdam, bon, je le cite quand même précisément, ce chant devient l'hymne officieux du mouvement ouvrier mondial. Les développements font appel à la fois à la raison et en même temps, ils font appel, on va dire, à la ferveur militante. Et en ce sens, l'internationale a été traduite dans de nombreuses langues et demeure à ce jour le chant qui symbolise le mieux les luttes sociales dans le monde entier. Hein.
Et c'est un chant français.
Absolument. Alors, pour finir sur Potier, c'était un enfant du Paris républicain révolutionnaire, où il était né. Il a participé au coup de feu déjà à la Révolution 1848, et puis il a participé au combat pendant le siège de Paris en 1870, pris une part active à la Commune. Il a été élu député du 2e arrondissement de la capitale. Oui, oui. Et il a été un des derniers à se battre sur les dernières barricades de la Semaine sanglante. Condamné à mort par contumace, il s'est installé aux États-Unis où il a organisé une solidarité pour les communards déportés. Malheureusement, il ne saura pas que l'international
si
va devenir si célèbre puisqu'il décède un an avant qu'elle soit mise en musique.
Christian Marcadet a écrit Paris en chanson, édité chez Paris Bibliothèque, et ce livre est préfacé par Philippe Meyer. Oui, notre Philippe Meyer, de la prochaine fois, je vous le chanterai. Moi, j'aimerais bien connaître une chanson qui corresponde à mon idéologie ou à mon métier ou à ma région.
Porte qui claque, 1, 2, 3 verres de cognac tombent en vrac, c'est l'attaque, et puis elle craque. L'âme de solitude, lassitude, se ténue d'une prélude, inquiétude, interlude d'une jeune fille brute. C'est juste une fin un peu banale, le final, terminal, histoire sentimentale qui fait son carnaval. Puis vient la renaissance, imprudence, on s'en balance, c'est de la démence. Passé composé d'une épopée démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, futur de quelques murmures. L'écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Parole qui dérape, 1, 2, 3 gouttes sur la nappe, il l'attrape, elle le frappe. Prochaine étape, puis on se bagarre, se sépare. Départ pour un long cauchemar, style polar en boulevard d'un beau bazar. Ce sont les restes d'une ivresse, de jeunesse, de vieillesse, une tendresse qui s'abaisse à la tristesse. Souvenir de ses beaux sourires, quelques soupirs, pire qu'un désir, trace d'un délire. Passé composé d'une épopée, des mesures et délurées, incendiées, même oubliées, futur de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Passé composé d'une épopée, démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, future de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Aux baisers ratures, aux parfums impurs, aux corps immatures. Passé composé d'une épopée, démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, future de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. Passé composé d'une épopée, démesurée, délurée, incendiée, même oubliée, future de quelques murmures. Écriture nocturne d'une aventure aux allures obscures. C'est juste une rupture, morsure, cassure, fêlure, quelque chose qui se casse. Te dépasse le plancher que l'on débarrasse, c'est ton cœur que l'on dévase, mais quelque chose qui finira par se tasser.
Vous écoutez France Inter et c'était Laurie Darmon, Rupture. Vous écoutez Les Petits Bateaux. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est le jour des morts, c'est le jour où on va les visiter. Les cimetières sont absolument magnifiques. Mais ces morts, il y en a de plus en plus en fait.
Bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 13 ans et je voudrais savoir comment fait-on pour qu'il y ait toujours de la place pour les morts dans les cimetières ? Merci de me répondre.
Ça c'est vrai. Bonsoir Flora et merci pour ta question que nous proposons à un anthropologue. Georges Guy Escuré, vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est vrai, comment faire de la place ?
Eh bien oui, le problème c'est que précisément de la place, il n'y en a pas toujours et elle vient toujours à manquer et notamment évidemment dans les grandes villes. Si on prend le cas de Paris, il y avait au cœur de Paris un cimetière célèbre qui s'appelait le cimetière des Saints Innocents. Et dès le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, c'est devenu un véritable cauchemar. Et cela d'autant plus que l'urbanisation l'urbanisme avait fait que le niveau du sol du cimetière des Saints-Innocents était plus haut que les habitations qui étaient autour. Et de temps en temps, il y avait des effondrements, des maisons qui se retrouvaient avec des invasions de corps humains rencontrés. Ah. Ça a été abominable. Alors par contre, à la fin du XVIIIe siècle, on s'est aperçu que ça devenait vraiment invivable, la ville de Paris, avec le nombre de morts. C'est à ce moment-là qu'on a décidé la création des catacombes qui ont été créées finalement entre 1780 et 1860 et où on a entassé 6 millions de squelettes.
6 millions de squelettes. Et on les a transportés ?
On les a transportés. Ça a été un travail qui a duré en somme 70 à 80 ans.
Mais les catacombes, elles existaient déjà ?
Alors les catacombes, c'était des carrières de calcaire. Et on a utilisé ces carrières abandonnées pour y entasser les morts.
Donc les catacombes, ce n'est pas des endroits où se cachaient les chrétiens ?
Non, pas du tout. C'est pour ça que le terme de catacombe à Paris n'est pas bienvenu. C'est qu'effectivement, dans d'autres villes, dans d'autres pays, il y a eu des catacombes de cette sorte. Mais dans le cas des catacombes de Paris, c'est simplement un réaménagement. On fait de la place pour les cimetières.
C'est du rangement, quoi.
C'est du rangement. Et alors ça, c'est un aspect très curieux parce que ça donne lieu à une espèce de révolution silencieuse. Le problème des morts que l'on garde, c'est qu'ils sont très envahissants. Et depuis une quarantaine d'années, la crémation ne cesse d'augmenter en proportion, notamment dans les villes. Ça a commencé dans les villes protestantes, et puis ça se répand maintenant à peu près partout. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux phénomènes dans notre époque. Il y a une désacralisation du corps humain défunt, et en même temps, un maintien de la sacralisation au niveau du germe de vie du fœtus. C'est-à-dire que ces deux piliers de la croyance chrétienne, qui était le sol consacré pour les tombes et la personne humaine dans le fœtus, suivent des destins totalement opposés. On désacralise sans problème et finalement les églises monothéistes font de moins en moins d'opposition à la crémation. Et par contre, on sacralise maintenant le germe de la vie humaine jusque dans les cellules les plus élémentaires et il y a des discussions enflammées pour dire est-ce que la personne humaine est présente dans le germe ou pas.
Si je comprends bien, Georges Guillet-Scuret, si on s'intéresse à la fin de la vie, on s'intéresse aussi au début. Ce sont les deux bornes, en fait.
Effectivement, est-ce que cette espèce de fanatisme furieux de la défense de la vie humaine dans la moindre cellule qui amorce la naissance, est-ce qu'il ne faut pas la mettre en miroir avec cette désacralisation sans problème et finalement sans grande polémique du corps humain dans les cimetières ?
Georges Guillet-Scuret, docteur en biologie et en ethnologie, il est chercheur au CNRS et il a écrit aux presses universitaires de France « Sociologie comparée du cannibalisme ». Évidemment, plus l'humanité avance, plus il y a de morts, parce que plus il y a de vivants, plus il y a de morts, puisque tous les vivants vont mourir sans exception. C'est absolument pas triste, moi je suis sûre que c'est génial la vie après la mort. Comme me dit Marjorie, c'est une conviction qui me regarde. Elle me dit également de vous présenter nos excuses parce que notre répondeur est tombé en panne cette semaine au petit bateau. Il est réparé. Vous pouvez désormais composer le 01 56 40 43 57 pour déposer votre question. Merci à Ludovic Laszlo, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham. Allez faire un tour sur notre site, acheter notre livre qui s'appelle Les petits bateaux en livre de poche. Je vous laisse avec Denis Chessot pour l'atelier, mon petit loup.